Bonsoir, merci d'être présent. Désolée, un début un petit peu nerveux, mais bon, on va se détendre au fur et à mesure, de toute façon. Allez, c'est parti, on souffle. Relaxation. Alors, ce soir, émission spéciale sur l'interprétation des rêves. Alors, on va se faire un petit topo, on va expliquer comment interpréter un rêve, les différents symboles, un petit peu tout ça. On va aussi parler de l'actualité du paranormal. On va vous présenter aussi un personnage, Edgar Cayce. Donc ça, c'est quelqu'un, pas que dans l'interprétation des rêves, mais vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez spécial. Et puis, nos mystères et nos légendes. Et là, on prend le thème des rêves prémonitoires. Donc, l'interprétation des rêves. Ce qui est intéressant dans l'interprétation des rêves, ce qui est sympa en tout cas pour ma part, moi j'aime beaucoup, ça conduit un petit peu la démarche de ma journée ou les choses comme ça en fait. Chaque chose peut être importante dans l'interprétation des rêves. Tout est pris, enfin, on va vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer tout ça, chaque chose en son temps. On va vous lancer une première pause musicale pour reprendre un peu ses esprits avec Maximum Quent, Chromosome Story.
Personne n'a tort, tout le monde a raison, il n'y a pas de problème.
Maximum Couette, Chromosome Story. De retour sur The Mystère, nous allons passer aux actualités du paranormal. Alors, le calendrier Maya prendrait fin en 2116 et non pas en 2012. Petite info, parce que bon, d'une, j'en ai un peu marre de croiser les gens dans la rue en disant « on va tous mourir en 2012 ». Non, pas de panique, c'est pas tout de suite. Donc rassurez-vous, vous pouvez dès à présent sortir de vos bunkers et remplacer les affaires empaquetées de vos étagères. Alors, sur les sources du Paranormal News, en fait, on ne mourra pas le 21 décembre 2012, comme annoncé, comme le jour marquant de la fin du monde, le 21 décembre de l'année prochaine est aussi considéré comme la fin du calendrier Maya, du moins jusqu'à aujourd'hui. Alors, une équipe de scientifiques allemands vient en effet de mener une étude approfondie pour décrypter le fameux calendrier. Publié dans un magazine allemand, cette dernière révèle que les calculs effectués pour retranscrire le temps selon les Mayas dans le calendrier chrétien étaient complètement faux. Mis en cause, les travaux d'un certain John Eric Sidney Thompson, le grand spécialiste de la civilisation Maya de la première moitié du XXe siècle. Donc son approche de la retranscription du temps selon les Mayas dans le calendrier chrétien ne prenait ainsi pas en compte les différentes occupations de cités par les tribus ennemies. Donc après recalcul, la fin du calendrier Maya serait fixée en l'an 2116. Donc il y a de quoi s'offrir un petit moment de répit quand même. Hein ? Ensuite, une vague d'attaques du Chupacabra au Mexique. Donc ça, c'est un petit peu de la cryptozoologie. Donc ça, c'est un étrange animal qui tue et qui vide ses proies de leur sang. Moi, je sais, c'est un peu glauque. Mais en ce moment, en février 2011, il y a eu là 3 attaques en une semaine. Donc une à Chihuahua, ouais, c'est des villes du Mexique, et une à Tapachula, toujours au Mexique. Alors, plus de 50 moutons au total sont morts. Donc le premier incident est enregistré aux premières heures du 16 février, 12 moutons morts et d'autres présentant de graves blessures. Donc selon le propriétaire, les animaux se trouvaient dans un enclos doté d'une clôture de 2 mètres de haut que les prédateurs naturels ne pouvaient pas franchir. Pourtant l'étrange animal est entré et a attaqué les moutons sans les manger. Bon, les vidant de leur sang et laissant des marques suggérant une mâchoire de 20 cm d'envergure. Donc déjà, c'est pas un pitbull. Il y avait aussi des marques de griffures et des piqûres faites par de longs crocs bien visibles. Des agneaux aussi avaient été... Bon, après on va passer les trucs macabres. En gros, personne n'a rien vu, à part donc un propriétaire, Roberto Villalobos. Donc lui, il a vu... Il est passé et a lâché son dog allemand sur l'animal qu'il pouvait voir donc dans l'obscurité. Mais le chien, il s'est fait un petit peu attaquer, donc il est parti en fuyant. Donc voilà, donc là les habitants n'osent plus sortir. Si on récapitule un petit peu la date des attaques, il y en a eu mercredi 16 février 2011, lundi 21 2011, vendredi 25 2011. Donc... Le 21, une attaque similaire s'est produite, les carcasses ont été retrouvées au bord de la gare. Enfin, un vrai carnage et un monstre qu'on n'a encore jamais vu. Bon, quelque chose d'un peu plus, enfin pas plus intéressant, mais moi qui m'intrigue beaucoup. Parce que depuis le temps qu'on en parle, on ne l'a toujours pas trouvé. Il s'agit de l'Atlantide et de ses vestiges retrouvés soi-disant en Espagne. Donc Richard Freud pense que la cité perdue Atlantique 2 se trouverait en Espagne et plus précisément en Andalousie, dans le parc de Doñana, près de Cadix, englouti sous des marécages. Donc pendant 2 ans, lui et son équipe se sont lancés dans cette impossible quête. Donc l'université d'Oxford aux États-Unis, le chercheur Richard Freud pense avoir retrouvé la cité de l'Atlantide. Après des années de recherche avec son équipe, ce chercheur a expliqué que la cité mystérieuse se trouvait en Espagne et qu'elle avait été submergée par un terrible tsunami. Donc pour percer le secret de l'Atlantide, son équipe a utilisé les photos prises d'un satellite d'une ville submergée au nord de Cadix, en Espagne. Ils ont pu y découvrir des cercles concentriques et des structures rectangulaires rappelant la description du philosophe grec Platon. Aujourd'hui, Richard Freud est très sûr de lui quant à cette découverte historique. Il a même expliqué à Röster avoir une preuve irréfutable de ce qu'il avance. Donc, pour lui, il a retrouvé quelque chose que d'autres n'avaient jamais vu, ce qui lui confère une couche de crédibilité, surtout en archéologie, qui fait bien plus de sens. Donc, en gros, pour certains, ce serait des élucubrations de Platon et qu'il n'y a jamais eu rien là-bas. Mais bon, on poursuivra les recherches hein, après la Nouvelle-Zélande ou autre. Donc voilà. Alors, une autre information sur lamire.net. Un enfant attaqué par un fantôme. Donc une mère désespérée a été contrainte de demander l'aide d'un prêtre car son enfant a été attaqué par un fantôme dans la maison familiale. L'enfant de 13 ans était seul dans la maison lorsque soudainement, une force invisible l'a projeté dans la salle de séjour pour ensuite le traîner dans la rue. Madame Wilkins, était donc la maman de l'enfant, était retournée chez elle après avoir été chercher son enfant de 5 ans à l'école lorsqu'elle a vu son fils Daniel tremblant et en sanglots à l'extérieur de la maison. Elle voit son fils, lui demande ce qu'il fait à l'extérieur de la maison. Il lui répond qu'il était assis sur le canapé lorsqu'il a senti quelque chose le prendre. Mes pieds ne touchaient plus terre et j'ai été projetée dans la salle de séjour. Ensuite, la porte d'entrée s'est ouverte et je me suis retrouvée dans la rue, lui explique-t-il tout en larmes. La famille est retournée dans la maison, ils ont entendu des coups du haut des escaliers. C'est à ce moment que Madame Wilkins a décidé d'aller à l'église Saint-Paul de la ville voisine, demander de l'aide au prêtre. Le jour suivant, le prêtre a rendu visite à la famille afin d'offrir un soutien et dire des prières pour eux. Il a dit, nous procéderons une étape à la fois, et la première étape, en tant que curé de la paroisse, est d'apporter un soutien moral à la famille ainsi que des prières. Le propriétaire de la maison, quant à lui, dit qu'il n'a jamais rencontré un tel cas exceptionnel auparavant. Donc ça vient de lamire.net. Vous pouvez aller voir quelques petites infos comme ça, lamire.net, Info Paranormal et Paranormal News. Vous verrez, c'est des sites blindés d'actualité qu'on n'a pas souvent aux 20h. Ensuite, on va maintenant passer par les conférences de l'INRES. Donc, la prochaine conférence de l'INRES se tiendra le mercredi 6 avril 2011, de 19h50 à 22h30, toujours au même grand amphithéâtre à Paris. Et là, c'est les médecins face à l'au-delà. Donc, pour raconter un petit peu le thème, c'est comment les médecins perçoivent-ils les phénomènes inexpliqués auxquels ils sont nombreux à être quotidiennement confrontés. Donc, expérience de mort imminente, expérience de vision au seuil de la mort, phénomène de conscience accrue en fin de vie. Donc ça, c'est des éléments de réponse que vous aurez avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur. Ensuite, une conférence de l'association Mirabilis, hôtel central d'Evreux, ex-Paladin, rue Buzot. Donc cette conférence se tiendra le samedi 2 avril à 14h30. Le thème « Mon parcours en médiumnité et expérience médiumnique en salle » avec le médium Bertrand Retailleau. Voilà. Et ma petite dernière info, c'est un livre qui est sorti, « La nouvelle interprétation des rêves », donc ça tombe bien pour le sujet, de l'auteur Toby Nathan, professeur de psychologie à l'université de Paris 8e. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Donc c'est un livre qui se veut comme un guide d'interprétation des rêves et qui est constitué de sa propre expérience thérapeutique, de thérapeute, pardon. voilà. Donc ben là, on va se faire une autre petite pause musicale, gentillette. On va mettre à Nice, mon métro, et puis on se retrouve tout de suite.
Mon métro, c'est la fête à la mitraille. Mon esprit qui déraille, les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails. Pas d'abracadabra, tu n'as tous les coups, mais ça vaut mieux que planter des clous. Et puis comme taf, y'a plus relou. Ligne 2, ligne 12.
Douzeline, si j'avais les crocs. Étoile, Kléber, Boissière, Trocadéro. C'est mieux que le body step pour perdre des kilos. Deal de son compte, les devises dans mon chapeau. Dollar, Copec, franc, suisse, yen ou euro. Comme Bogdan, Antoine, Manuel ou Ricardo. Mais pas d'ampli, pas de micro, pas de chariot. Pas dans les couloirs pour prendre des vents par les badauds. Entre les straps en temps pour que tu rates pas le spectacolo. Pendant que les stations défilent, je vise vos tampons et croise vos regards de temps en temps. Sous pas métro extraordinaire. C'est quel arrêt pour être chanteur populaire? Quelle direction pour un développement de carrière? Oui. Dans 15 wagons, j'aurai gratté mon salaire. J'ai une belle vue sur Babylone. Du haut des chiottes du palier de ma chambre de bonne, je tape un coup de fil du taxiphone. Et mon métro, c'est la fête à la mitraille. Mon esprit qui déraille. Les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails. Pas d'abracada, tu n'as tous les coups. Mais ça vaut mieux planter des clous. Et puis comme taf, y'a plus relou.
Stop that train.
Au siège de la RATP, y'a de plus en plus de plaintes d'usagers. Ils disent qu'ils sont tout le temps dérangés par les buskers qui viennent chanter. Menacent leur tranquillité à coups de karaoké. Mais le métro c'est la santé, les heures de pointe c'est le pied. C'est mieux que les fleurs de Rungis que tu trouves sur le marché. Beaucoup mieux que plein de programmes que j'ai vu à la télé. Alors cours mon gars, cours mon gars, cours mon gars, cours. Y'a pas de correspondance sans retour et pour t'en sortir baby, il faut plus qu'un sourire et tu le sais.
Stop that train.
Uchnik, Chesnia, Tierpinia, Tierpinia. Bientôt tu riras tout ça au drugstore des Champs-Élysées. Avec un casse d'Aladie que ça dégustait, je fais ma pause étude de marché. Et mon métro. C'est la fête à la mitraille, mon esprit qui déraille. Les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails. Pas d'abracada, tu n'as tous les coups. Mais ça vaut mieux planter des clous. Et puis comme taf, y'a plus relou.
Mesdemoiselles, jeunes hommes, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes bien installés et pas trop serrés. C'est reparti pour un tour de métro, c'est la santé. Alors bienvenue, merci d'être venu au spectacolo dans le métro.
Mon métro, c'est la fête à la mitraille. Mon esprit qui déraille. Les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails. Pas d'abracada, tu n'as tous les coups. Mais ça vaut mieux planter des clous. Et puis comme ta vie a plus relou. Mon métro, mon métro, mon métro, mon métro, mon métro.
Nice, mon métro. Bon, bah allez, les actualités du para sont passées. Bah, on passe au Kézako. Kézako, l'interprétation onirique. Donc, bah, l'interprétation onirique, hein, on va pas raconter n'importe quoi. C'est depuis l'Antiquité. Déjà, depuis la mythologie grecque, on interprétait les rêves comme des conseils ou des ordres venant des dieux. Quoi. Les Égyptiens, eux, croyaient déjà qu'un rêve pouvait révéler l'avenir. Et dans la culture amérindienne, le rêve, c'est comme un véhicule qui permet l'échange entre les hommes et le grand esprit. Alors, l'interprétation des rêves a toujours été l'un des aspects les plus importants du chamanisme dans la culture amérindienne. D'ailleurs, vous, peut-être que vous connaissez cet objet, ce vieil objet rituel des Indiens, le capteur de rêve. Vous savez, c'est un petit rond avec comme une toile d'araignée à l'intérieur et il y a des plumes au bout. Donc en fait, ça c'est pour capturer les bons et les mauvais rêves. Donc il faut l'accrocher soit au-dessus de son lit, mais le mieux c'est à la fenêtre de sa chambre. Et en fait, il dit, selon les légendes, que les mauvais rêves sont pris au piège dans la toile d'araignée et seront brûlés au premier rayon du soleil. Et que les bons rêves, eux, arrivent à trouver le trou du milieu de la toile d'araignée pour arriver jusque dans la tête du rêveur. Donc, voilà. Donc, mais ça, pour le capteur de rêve, vous allez voir, il y a, si vous allez chercher un petit peu sur Internet ou autre, il y a plusieurs légendes par rapport au capteur de rêve, son origine et sa création, parce qu'il y avait plusieurs peuples indiens, forcément. Donc, d'un Sioux un autre, ça changeait. Donc là, maintenant, on va essayer d'expliquer comment est-ce qu'on interprète un rêve. Donc déjà, la chose la plus primordiale pour tout le monde, quand on veut interpréter ses rêves, il faut avoir un papier et un stylo. Ça semble bête, mais bon, il faudrait qu'il soit à côté de vous quand vous dormez ou quand vous faites la sieste, toujours à portée de main, parce que les rêves sont tellement furtifs que ça prend quelques minutes à le rêver, alors que vous, vous avez l'impression que ça a duré toute la nuit. Et quand vous vous réveillez, c'est parti très très vite. Donc, on note tout. Donc, une fois écrit, donc vous allez repérer les éléments les plus importants. Donc déjà, si on prend un rêve comme un film, une pièce de théâtre, il y a une scène. Donc, vous allez commencer par identifier des éléments importants, donc l'image dominante. Par exemple, vous êtes soit dans une maison abandonnée ou alors dans la maison de votre enfance. Enfin bon. Et l'image dominante de tout ça, ça peut déjà donner un titre pour votre rêve. Ça peut être sympa, en plus après ça fait des histoires. Donc vous distinguez le décor, donc si vous êtes dans une salle de bain, une rue déserte, tout ça, bref. Vous observez les différentes scènes, donc il faut voir ce qui se passe. Et il est super important, mais même essentiel, de remarquer votre réaction. Parce que ça offre un indice utile. Il faut toujours, si vous avez eu peur, si vous avez été en colère, limite, si vous avez eu des envies de meurtre. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Vous écrivez un scénario, enfin ce que vous avez rêvé, vous le réécrivez. Donc, vous observez donc tout ça. Ensuite, vous observez des personnages, donc ils peuvent être connus ou inconnus. Si dans ce cas-là, il y a deux sortes de représentations. Il y a la représentation d'un de vos aspects, de vos traits de caractère qui sont représentés par ces personnages, ou c'est des personnages que vous connaissez, des membres de votre famille, et là, ça va plutôt... faudra voir vraiment la réaction parce que ça pourra vous montrer, mettre le doigt sur les sentiments ou le comportement que vous avez à leur égard, souvent. Donc, il faut aussi omettre aucun détail. Hein. Les animaux, les plantes, les parties du corps, donc à chaque fois, ça a une nuance très importante. Donc, j'ai ramené avec moi un petit tableau donc, pour vous donner des petits exemples, un peu comme ça. Donc, par exemple, l'automobile... ça va être plutôt votre conduite intérieure, la façon dont vous vous comportez. Vous rêvez que vous êtes en voiture, je donne un exemple, un oiseau passe devant la voiture, voilà. Ça veut peut-être aussi dire qu'il va peut-être falloir ralentir sur certaines choses, éviter les excès, voilà, dans ce sens-là. Si on prend par exemple de l'eau, si vous avez vu une rivière, un lac, une cascade... La pluie, ça a toujours un rapport avec le côté des émotions. Ça voudra toujours dire que ça touche vos émotions. Donc, vous êtes en train de nager, la mer était toute calme et tout d'un coup, des grosses vagues toutes déchaînées. Ça veut bien dire que en ce moment, côté émotionnel, relationnel, ben, ça fait des vagues, c'est tumultueux. Donc, Après, il y a des outils quand même, hein, pour l'interprétation. Donc là, comme je vous expliquais, les voitures, les animaux, les plantes. Donc ça, ce sont des symboles, mais il faut aussi voir en fait les couleurs. Il y a des couleurs qui dominent des fois. Donc si vous êtes dans une forêt, forcément en plein été, c'est le vert qui va vous sauter aux yeux le plus. Donc dans ces cas-là, le vert, c'est bon, tout ce qui va toucher à la spiritualité ou la détente. On pourrait prendre aussi le blanc. Le blanc, ça va être simple, hein, c'est pureté, innocence. Le orange aussi, créativité, énergie, sexualité pour certains. Donc voilà, chaque couleur a quand même, faut voir la dominante de la couleur. Puis il y a les chiffres aussi. Les chiffres sont pas non plus, sont très intéressants. Ça indique énormément de choses. Vous passez dans une rue qui est déserte et dans votre rêve, vous avez vu que vos yeux se sont arrêtés sur une plaque de numéro de maison. Donc par exemple, vous avez le 1. Le 1, c'est tout ce qui représente l'unité, l'autonomie et l'autorité, on va dire. Ouais. L'individualité et la survie aussi. Donc voilà, on pourrait donner des tonnes d'exemples, parce qu'après, vous avez tous les numéros qui veulent dire quelque chose aussi. Donc si on prend le 4, c'est la terre ou la matérialité. Donc vous pouvez aussi apprendre à diriger vos rêves. Donc ça, après je vous laisserai bien sûr surfer, parce que je vais pas faire tout le boulot non plus, hein. Sinon je me ferai payer. Alors... j'en étais où, moi, à dire mes bêtises? Ouais. Vous pouvez apprendre à diriger vos rêves. Donc, moi, ma petite astuce. Quand je m'allonge dans mon lit, déjà, j'essaye de faire le vide. Donc, si j'ai envie de chercher, parce que les rêves apportent beaucoup de réponses, on dit toujours que la solution vient en dormant. Et je peux vous assurer qu'en pratiquant, ça arrive. Donc, vous vous allongez, vous faites le vide, et vous n'essayez de penser qu'à soit la question ou une chose qui vous tient bien à cœur, ou vous avez envie de vous détendre et de passer une nuit paisible, vous auto-suggérez. Bon, je vais pas inventer des mots comme Damien, ça va pas le faire. Donc, vous vous auto-suggestionnez. Oh là là, excellent. Et donc, vous pensez par exemple à des cascades ou à un champ de fleurs. Je vous assure que ça peut marcher. Vous dirigez vos rêves. Donc, sur ce petit entrefait, je voulais aussi vous parler d'une dernière petite chose, hein, ce qui était la thérapie onirique. Donc, là déjà, j'en ai parlé un petit peu dans la façon de diriger ses rêves. Quand vous regardez, vous pensez à une fleur, vous pensez à un champ de fleurs, tout ça. Ça, ça fait partie des thérapies oniriques pour vous détendre, vous calmer. Donc voilà. Sur ce pneu, on va se faire une autre petite pause musicale. J'espère que j'ai été assez pas concluante, mais claire, oui. En tout cas, j'espère. Donc voilà. Donc on part avec Dolly. Dolly, c'est pour toi. Thank you. Dolly, c'est pour toi et bienvenue, re-bienvenue dans The Mystère, de retour. Voilà, donc là on va passer à la présentation d'un personnage et pas n'importe lequel, Edgar Cayce. Donc pour beaucoup il peut dire quelque chose et non sans dire. Pour vous le présenter un petit peu, si vous allez sur un de ses sites hein, qui est LARE, donc c'est l'association qui a été créée par Edgar Cayce. Ils vont vous dire que donc Edgar Cayce manifeste d'exceptionnelles facultés paranormales. Plusieurs centaines de livres ont été écrits sur sa vie et son œuvre. Alors, pour des facultés paranormales, il en a. Edgar Cayce donc, est né le 18 mars 1877 aux États-Unis, dans l'État du Kentucky. Donc, dès son enfance déjà, il montrait à papa et maman qu'il avait certaines prédispositions pour ce qui était de la parapsychologie et des effets un peu paranormaux. Suite à un gros choc, à ses 13 ans, il a perdu son grand-père, donc un être qu'il aimait énormément. Et suite à ce décès, il dit qu'il a donc rencontré un ange qui lui a demandé quel était son désir... Quel était son souhait le plus... j'ai du mal à trouver mes mots. Enfin, ce qu'il voulait le plus au monde. Et Edgar Cayce lui a dit qu'il voulait aider les autres, peu importe comment ni à quel prix, mais lui, il voulait aider les autres. Et ensuite, il s'est aperçu que le petit ange avait exaucé ses vœux. Et donc, il avait cette faculté de rentrer en état d'hypnose, dans son sommeil. Donc, il pouvait comme ça dormir sur un manuel scolaire quand il était enfant et il enregistrait bizarrement toutes les informations de ses livres. Donc, en grandissant, il a continué en fait à se mettre dans des états d'hypnose pour principalement guérir des gens. Donc, Edgar Cayce, pas médecin. Il a été vendeur, il a été assistant photographe. Il n'a aucune notion de médecine à l'origine, aucune étude de médecine. Et il arrivait à déceler des maladies que les médecins n'arrivaient pas, eux, à trouver, à donner les remèdes et bien sûr à les guérir. Je ne parle pas de soigner, de guérir. Donc, il a fait d'énormes, donc il appelle ça des lectures, beaucoup, beaucoup de livres. Donc, sur la réincarnation, sur... Mais ça, on en parlera au fur et à mesure, parce que lui aussi, j'aurais tendance à beaucoup le citer. Mais il a fait aussi tout donc, trois ou quatre lectures sur les rêves et leurs interprétations. Donc, il a même réussi à trouver son propre remède à lui. Donc, un jour, parce qu'il était donc commercial, c'est ça le porte-à-porte. Il a, à cause de l'absorption d'un sédatif, il a perdu la voix et les médecins ne trouvaient pas ce qui avait causé ce souci. Et il avait rencontré un hypnotiseur ambulant qui, en état d'hypnose, avait réussi à le faire parler, alors que Edgar Cayce était complètement aphone, ne pouvait plus sortir un mot. Quand il s'est réveillé, il a reperdu sa voix et il s'est dit que ben, lui aussi, il savait faire ça. Et donc, il a commencé en fait par lui-même, avec un témoin, donc je pense que ça devait être sa femme. Donc, il a dit ce qu'il avait, comment le soigner, il a retrouvé sa voix et résultat, il a pris la bonne voie pour aider les gens et les aider dans, voilà, avec des pronostics et des traitements appropriés. Voilà sur Edgar Cayce. Je ne peux pas en dire beaucoup parce que au niveau de l'interprétation des rêves, moi je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Je le connaissais pour autre chose, le channeling, tout ça, mais pas encore sur l'interprétation des rêves. Donc, même moi, ça va me donner l'occasion de bien l'étudier. C'est super. Ça donne encore plus de... Mais bon, il en a quand même fait... Alors, si je ne dis pas de bêtises, il a fait 14 000 lectures à lui seul de sa propre expérience, de sa propre hypnose. Donc, c'est énorme pour un seul sujet. Donc, on va déjà faire une pause musicale hein, parce que, voilà... Donc, on suit avec Sims Emilia et un titre que j'aime beaucoup, Marlène.
S'accroche en haut de tes bombes. Oh Marlène, dans tes veines coule l'amour des soldats. Eux, quand ils meurent ou s'endorment, c'est la chaleur de ta voix qui les apaise et les traîne jusqu'en dehors des combats. Oh Marlène, c'est la haine qui nous a emmenés là. Mais Marlène, dans tes veines coule l'amour des soldats. Eux, quand ils meurent ou s'endorment, c'est dans le creux de tes bras qu'ils s'abandonnent et qu'ils brûlent comme un clope entre tes.
de retour sur Principe Actif, The Mystère. Bah justement, The Mystère, on va attaquer la séquence Mystère et Légende. Donc, et je vais vous raconter quelques petites histoires. Donc, comme on est sur le thème du rêve, je vais vous raconter des histoires de rêves prémonitoires. Alors, le premier, c'est le rêve prémonitoire d'Abraham Lincoln. Un jour, pendant une réception, Abraham Lincoln dit « C'est étonnant de voir l'importance des rêves. Dans 16 chapitres de l'Ancien Testament, on mentionne des rêves. Si nous croyons ce que dit la Bible, les choses viennent à notre connaissance par le rêve. Tenez, dit-il à ses amis, l'autre nuit, j'ai fait un rêve. J'entendais pleurer une foule que je ne voyais pas. Je suis allé dans une pièce, il n'y avait personne, et puis en passant dans une autre chambre, il y avait des soldats et une tombe. Je me disais en moi-même, ça doit être quelqu'un d'important pour qu'il y ait autant de soldats autour. Alors, en passant, je me suis arrêté devant un soldat et je lui ai demandé qui était mort. Le soldat, les yeux rougis par les larmes, me répondit, c'est le président qui a été assassiné. Donc quelques mois après ce rêve, le 14 avril 1865, un vendredi saint, le président Lincoln mourait assassiné. Donc anti-esclavagiste, le président Lincoln était très populaire, mais il avait aussi de très nombreux ennemis. Donc si le rêve avait atteint son but, s'il l'avait interprété, peut-être qu'il aurait été plus prudent, mieux protégé, et il aurait peut-être eu la vie sauve, et son rêve n'aurait pas été prémonitoire. Sur ce, nous allons passer au rêve de Monsieur Bérard. Donc, Monsieur Bérard, c'est un ancien magistrat et député d'il y a le siècle dernier, sans dire de bêtises. Donc, en fait, pour raconter l'histoire, Monsieur Bérard, oh là là, il est dur lui aussi, s'étant arrêté dans une auberge isolée, vit en songe tous les détails d'un assassinat. Donc, et en fait, il a, par le signe singulier de dédoublement, en fait, il était en même temps spectateur et acteur. Donc, un autre que lui était couché dans le lit d'une pauvre chambre et il assistait à un meurtre, quoi. Le couple d'aubergistes, parce que, alors, on revient un petit peu en avant. Monsieur Bérard, oh là là, était en excursion et il faisait un petit peu froid, il était un petit peu contraint par la fatigue et donc il passe devant une petite auberge au milieu des montagnes boisées. Donc là, pour le décor, vous imaginez un petit peu le film d'horreur, super glauque. Donc il rentre dans l'auberge, il demande à manger, une chambre, bon. On lui octroie une chambre en lui disant qu'il ne restait plus que celle-ci. Et il fait un rêve étrange dans cette chambre. Et donc, voilà, il rêve du couple d'aubergistes, donc deux vieilles têtes, qui entrent à la lueur d'une lanterne en marchant très doucement sur la pointe des pieds. L'homme pose la lanterne sur la table et prend des oreillers qu'il met sur la tête du dormeur, aidé par sa femme et appuyant de toutes ses forces. La victime râla un peu, puis tout bruit s'éteignit. Alors, le meurtrier ouvrit une porte qui donnait accès à une grange par un petit escalier. Et ils ont descendu le corps avec sa femme. Donc, le mari qui prend la lanterne dans les dents, la femme qui prend les pieds, et hop, tout ça dans la grange. C'est là qu'en fait, ils enterrèrent leur victime. Donc, 3 ans après cette nuit-là, Monsieur Bérard, qui était à l'époque encore juge d'instruction, donc est dans un des cabinets de ses amis avocats, et il entend donc qu'un de ses confrères, Monsieur Victor Arnaud, avait disparu. Donc les recherches étaient infructueuses, mais le dernier endroit où il serait passé, ce serait dans cette auberge. Et là, Monsieur Bérard a pu donner en fait au détail près l'histoire du meurtre, puisqu'en fait, il avait rêvé de ce meurtre-là 3 ans auparavant. Donc, il a été confronté au couple d'aubergistes, mais qui n'a pas pu nier, parce que tout ce qu'il avait dit devant eux était la pure et stricte vérité. Ils l'ont même accusé d'être caché dans la chambre et l'ont même traité de diable. Donc ça, voilà pour le deuxième rêve prémonitoire. On va se refaire une petite musique gentiment avec Lenny Kravitz, Love Revolution. Love Revolution. On finit par un petit rêve prémonitoire, celui de Monsieur Middleton. Bon, je vous explique. Le Titanic devait appareiller le 10 avril 1912 pour son premier voyage. Monsieur Middleton retint sa place vers le 20 mars. Quelque temps après, donc, il vit en rêve un vapeur gigantesque englouti par les flots. Tout autour, la mer était piquée de têtes de passagers qui luttaient contre les vagues. La nuit suivante, le même tableau angoissant. À son réveil, M. Middleton, inquiet, eut la certitude que ce rêve annonçait une catastrophe. Il n'en dit cependant rien à sa famille, de peur de l'inquiéter et de paraître ridicule en ajoutant foi à un rêve. Mais le 4 avril, M. Middleton reçut un télégramme d'affaires lui demandant de remettre à plus tard son voyage, ce dont il fut mais enchanté. C'est alors qu'il raconta à sa femme et à plusieurs amis son fameux rêve. Trois d'entre eux l'enregistrèrent et l'envoyèrent plus tard à la Society for Psychical Research. Oh, mon anglais est pas terrible. Ça aussi, je vais vous en parler plus tard de cette société. Donc, M. Middleton avait donc raconté le rêve avant la catastrophe, donc sa femme le certifia verbalement, et ajouta que c'était la première fois que son mari avait fait un tel rêve. Les 4 certificats furent publiés par le journal de la société, on va l'appeler SPR, on comprendra après. Donc sous le pseudonyme de Connor, Monsieur Middleton raconta son aventure dans une lettre datée du 19 avril 2012. Il avait gardé par hasard le billet de retour non utilisé et prouva même la véracité de son rêve. La véracité de ses déclarations ne faisait donc plus aucun doute. On peut affirmer que la traversée du Titanic aurait pu être fatale pour Monsieur Middleton. Toutefois, s'il s'était embarqué sur le bateau, ben, il aurait couru des risques, car peu d'hommes ont pu monter dans quelques canots mis à l'eau. On connaît tous l'histoire. Et il est aussi noté que la répétition de ce rêve prémonitoire en avait souligné l'importance. Deux rêves, ça lui a suffi pour pas se jeter à l'eau. Voilà. Donc, The Mystère touche à sa fin. Je sais qu'il est un peu tôt, mais je vous souhaite de faire de très jolis rêves. Détendez-vous. Pensez à de belles choses. Et s'il y a un rêve prémonitoire, pensez à m'envoyer un petit mail. Ce serait sympa. Rendez-vous le 19 avril sur Principe Actif. Une bonne soirée.